carnet de campagne, bonjour. Au cours de cette semaine en zigzag, nous nous arrêtons ce mercredi au cas exemplaire que représentent les coopératives d'activité et d'emploi. Alors, pourquoi exemplaire? Vous allez le comprendre dans un instant. Souvent, on lit dans les textes de présentation, d'ailleurs, l'abréviation de CAE pour désigner ces coopératives qui ont déjà séduit un peu plus de 10 000 entrepreneurs indépendants en France. Réunies en deux fédérations, ces coopératives offrent une meilleure protection que le régime du micro-entrepreneur, mais peinent à faire connaître leurs avantages, même si certaines d'entre elles regroupent plusieurs centaines de coopérateurs à l'image de la célèbre Copanam. Pour mieux connaître leur fonctionnement et parfois les freins à leur développement, nous allons inviter aujourd'hui Dominique Babilotte qui préside la principale fédération des coopératives d'activité d'emploi sous le nom de Coopérer pour Entreprendre, et Hugues Sibyl, président du labo de l'ESS. Mais avant cela, je voulais rappeler l'annonce et coup de pouce de cette semaine au profit de l'association Arstoc, dont nous avions parlé en 2014. Elle est née quelques années auparavant. Elle récupère des décors de spectacle, les valorise, les réemploie, et tend à les réinjecter en partie dans le monde culturel pour permettre aux petites et moyennes compagnies ou structures ou associations culturelles bénéficier d'éléments de décor et de matériaux à peu de frais. Elle s'adresse également en particulier aux collectivités locales. C'est la première plateforme de ce type européen en Europe, avec près de 3000 m² d'entrepôts répartis sur deux sites, un en Ile-de-France, en Seine-et-Marne, et l'autre en Haute-Garonne, dans le sud de la Haute-Garonne. L'association a eu pour partenaire le Théâtre des Champs-Élysées, dont elle a récupéré beaucoup de décors d'opéra ainsi que l'Opéra de Lyon. Et aujourd'hui, elle lance une plateforme de financement participatif de façon à pérenniser ses activités et surtout consolider ses postes. Vous allez trouver un lien à notre page d'émission aujourd'hui à la suite de cette diffusion, évidemment, pour soutenir l'association Arstoc. Merci pour eux.
France Inter. Carnet de campagne. Philippe Bertrand.
Hugues Sibyl, bonjour.
Bonjour Philippe.
Dominique Babilotte, bonjour.
Bonjour Philippe.
Hugues, je le rappelle, président du labo de l'ESS et président de la Fondation Crédit Coopératif. Et Dominique, président du réseau Coopérer pour Entreprendre, qui regroupe la majorité des coopératives d'activité et d'emploi en France. On va parler de ces coopératives qui sont quasiment toutes passées par les carnets, avec les vertus que l'on connaît, mais on va essayer de comprendre davantage le processus, comment elles peuvent gagner en densité, puisque effectivement il y a un mode d'entrepreneuriat très intéressant et très convaincant. Hugues Sibyl, avec vous, un regard sur ces coopératives, un regard général aujourd'hui. Est-ce que elles sont portées? Il y a un nouveau vent. On déclare que l'économie sociale et solidaire devrait être, comme le disait Nicolas Hulot, la norme et non plus l'exception.
Mais pour moi, c'est très clair. Les coopératives d'activité et d'emploi, c'est l'une des plus belles innovations sociales de ces dernières années. Pourquoi ? Parce qu'elles permettent de concilier le fait de créer son activité, mais de le faire avec d'autres, et donc avec moins d'insécurité. Quand j'étais jeune, on disait « libre comme l'individu, fort comme le collectif ». Et pour moi, une coopérative d'activité d'emploi, c'est ça. Et ça correspond en plein à l'air du temps. Ailleurs, on parle de flexi-sécurité ou de choses comme ça. Ben, c'est un endroit où on peut complètement développer son projet, mais en même temps être dans un cadre mutualisé, donc avoir un statut quand même qui protège. On est entrepreneur et salarié, et donc on a une protection, et c'est en plein dans l'air du temps. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il n'y a pas plus d'entrepreneurs salariés en France aujourd'hui, puisque on est un petit 10 000, alors qu'il y a 750 000 auto-entrepreneurs, donc il y a des marges de progression considérables. Donc moi, d'emblée, je dirais, vous les élus locaux qui vous voulez développer de l'emploi, faire en sorte que les habitants qui sont chez vous aient un cadre de travail plus sécurisé, intéressez-vous aux coopératives d'activité et d'emploi.
Mais alors, quel rôle, Hugues Sibyl, les élus ont-ils dans la création de coopératives d'activité et d'emploi?
Ils peuvent les aider, parce qu'en fait, pour démarrer une coopérative d'activité et d'emploi, il y a des études à faire, il faut y travailler, donc tout ça, l'autofinancer, c'est pas simple, donc il faut déjà financer cette phase de lancement, puis une fois que la coopérative est lancée, elle va en partie s'autofinancer, mais il y a une partie qui reste, parce qu'on accompagne souvent des gens qui sont au chômage, donc ça coûte, donc le fait de mettre un peu de l'argent là-dedans, maintenant, c'est une très bonne façon d'utiliser l'argent du contribuable, parce qu'on autonomise les personnes. On crée de l'activité, de la richesse, de l'emploi, et donc c'est une très belle façon d'utiliser l'argent du contribuable.
Et on sécurise le statut du salarié entrepreneur, puisque Dominique Babilotte, c'est le statut que l'on prend lorsque l'on va participer à la vie d'une CAE, comme on dit habituellement, une coopérative d'activité d'emploi. Le principe, pour nous en rappeler les fondements rapidement, Dominique.
Effectivement, on accueille des personnes qui veulent créer leur activité.
Et sortir du micro-entrepreneuriat.
Sortir ou ne pas y rentrer. Qui ont besoin, dans un premier temps, de tester leur projet. Puis d'acquérir, parce que c'est très important, d'acquérir les compétences. Donc la coopérative d'activité, outre qu'elle sécurise par le statut d'entrepreneur salarié, puisqu'effectivement l'entrepreneur est salarié de la coopérative, va lui faire acquérir les compétences d'entrepreneur. Dans un parcours d'apprentissage, en fait.
Donc on peut être débutant, entrepreneur débutant, et avoir des salariés de la coopérative qui vont vous guider et vous apprendre le métier.
Oui, les équipes d'accompagnement de la coopérative vont accompagner l'entrepreneur, mais il n'y a pas que les équipes, il y a aussi les autres entrepreneurs. L'une des choses qui fonctionne le mieux dans les coopératives d'activité, c'est la mutualisation et c'est le fait de se retrouver, non pas tout seul pour créer son activité, mais dans un groupe, avec des gens qui sont parfois très différents des uns des autres, mais qui partagent tous la même problématique du moment, c'est réussir à créer son activité.
J'ai retrouvé un article de Copanam, qui est une des plus grosses coopératives, Uxibil, 800 coopérateurs. Il n'y a que 30 salariés permanents pour assurer donc cette gestion administrative de 800 personnes, c'est suffisant?
Alors c'est des questions d'organisation, c'est des questions de taille critique aussi. Copanam est une grosse coopérative, donc à des tailles critiques, et donc peut certainement avoir une organisation un petit peu différente de d'autres coopératives d'activité qui sont de taille plus modeste, notamment en province. On est plutôt sur une logique de l'ordre de un accompagnateur pour une trentaine d'entrepreneurs salariés.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Nos invités aujourd'hui, Uxibil, président du labo de l'ESS, Dominique Babilotte, président du réseau, principal réseau coopéré pour entreprendre des coopératives d'activité d'emploi. Pour citer l'autre réseau, c'est Copéa, une trentaine de coopératives, donc un tout petit peu moins. Et paraît-il que vous allez trouver un point commun pour créer une fédération.
Nos amis de Copéa avec qui on travaille à des rapprochements pour représenter les coopératives d'activité en France.
Un scoop sur France Inter, merci. Je suis friand de scoop. Non, je m'en moque éperdument. Pourquoi tout à l'heure Uxibil parlait de la fragilité des emplois, même au sein des coopératives d'activité d'emploi? Dominique Babilotte, en quoi est-ce fragile de travailler dans une coopérative?
Oh, c'est pas fragile de travailler dans une coopérative d'activité d'emploi. C'est il y a une vraie difficulté aujourd'hui à créer son activité, tout simplement, parce que l'économie est difficile, l'économie est tendue. On a de plus en plus de gens qui sont obligés de cumuler plusieurs activités pour réussir à atteindre des objectifs de revenus, par exemple. Alors, c'est une espèce de fragilité, mais c'est aussi une tendance assez lourde. Et puis, on est dans une société où il y a quand même pas mal de précarisation, il faut bien le dire, et c'est pas les coopératives d'activité qui fabriquent, hein, c'est bien la société, et les coopératives d'activité, comme d'autres dispositifs, accompagnent ces personnes.
Oui. Est-ce que vous privilégiez davantage la création de coopératives thématiques, on a les coopératives culturelles, comme des coopératives du bâtiment, par exemple, plutôt que des coopératives hybrides, où on trouve toutes sortes de profils d'entrepreneurs?
L'important pour nous, c'est de pouvoir donner sa chance à tout le monde. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va chercher des financements publics. C'est pour permettre d'accompagner des gens qui n'ont pas un potentiel extraordinaire ou qui vont mettre longtemps avant de pouvoir contribuer à l'économie collective de la coopérative. La base est posée de cette manière. Et donc du coup, on a créé des coopératives thématiques en fonction des besoins. C'est pour ça qu'on a créé des coopératives dans la culture, dans le bâtiment, dans le service à la personne. On est en train de travailler beaucoup sur les coopératives d'activité dans le secteur agricole, qui est à mon avis extrêmement prometteur. Et puis, avec la loi de 2014, qui a pris effet au 1er janvier 2016, eh bien, il y a une floraison d'initiatives aujourd'hui qui naissent un petit peu partout en France, de groupes, de personnes qui partagent le même métier et qui ont envie de créer leur coopérative d'activité et d'emploi. Donc on les accompagne.
Uxibil.
Ce qui est formidable, au labo de l'ESS, on essaie de travailler sur la notion d'emploi de qualité. Et pour nous, un emploi de qualité, il faut qu'il y ait un contrat, faut qu'il y ait une protection, une protection sociale.
Il faut c'est le cas avec la coopérative.
Il faut qu'il y ait un collectif, c'est-à-dire on n'est pas tout seul dans son coin, il faut que le travail ait du sens. Et dans une CAE, il y a tout ça. On a un contrat, on accède du coup à une protection sociale, on a cette mutualisation, on rencontre les autres, on échange, on va faire même du business ensemble éventuellement. Et puis, le fait d'être dans la coopérative, il y a une notion de sens de ce qu'on fait, de son travail qui est là. Et par rapport à ce qu'on appelle quelquefois l'ubérisation de la société, j'aime pas trop le terme, eh bien voilà des réponses qui sont extrêmement intéressantes parce qu'on propose finalement une nouvelle forme d'emploi et on redonne du sens au travail.
Mmh. Et je regardais quand même dans La Fragilité, Dominique Babilotte, je crois que c'est toujours dans ce même article sur le statut d'entrepreneur salarié. Entre autres, là il s'agissait de Copanam, que la rémunération moyenne était de 700 euros, autrement dit très basse.
Oui, il faut pouvoir comparer avec ce qui est comparable. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on est en capacité de dire quelle est la rémunération nette réelle de n'importe quel créateur d'activité en France ? Je crois savoir que les auto-entrepreneurs, c'est de l'ordre de 400-450. Sur un certain nombre de professions libérales, dans les trois premières années, on ne sait pas vraiment quel est le montant de cette rémunération. Et puis, la particularité des coopératives d'activité et d'emploi, c'est que lorsque mon activité a vraiment démarré, lorsque j'ai du chiffre d'affaires et lorsque je commence à avoir du revenu, la plupart du temps, je quitte la coopérative pour créer ma boîte. Donc on a nécessairement une grande quantité des entrepreneurs qui sont dans la coopérative, qui sont des personnes qui sont en transition. Et donc qui sont avec des revenus de transition. Si maintenant on regarde le revenu de ceux qui restent dans la coopérative au bout de 3 ans et qui deviennent associés, on n'est plus du tout sur ces chiffres-là. Oui. Et là, on est sur des chiffres qui sont tout à fait corrects, en fait.
Votre avenir du réseau, c'est de s'étendre ou de se consolider ?
Alors, l'avenir du réseau de coopérer pour entreprendre, c'est d'accroître le nombre d'entrepreneurs salariés, d'accroître la notoriété de l'entrepreneuriat salarié, parce que comme le disait Hugues tout à l'heure, on n'est absolument pas suffisamment connu, c'est une évidence, 10 000 entrepreneurs salariés, 700 000 auto-entrepreneurs, on a une marge extraordinaire, alors que nous rendons un véritable service très intéressant. Et en même temps, il y a une nécessité de consolider ces entreprises qui, pour la première, existent depuis 20 ans, mais dont la plupart ont une petite dizaine d'années, qui sont des entreprises qui, par essence, sont peu rentables. Donc, on peut de fonds propres. Donc, il y a cette double nécessité pour nous, à coopérer pour entreprendre, de consolider les coopératives d'activité existantes, tout en accroissant le nombre d'entrepreneurs salariés accueillis. Donc, c'est un vrai challenge qui n'est pas simple, qui demande beaucoup d'abnégation et de travail de la part de mes collègues gérants de coopératives.
Et les sites de référence, le labo, tradeunionoss.org, pour Hugues Sibylle et pour Dominique Babilotte. J'ai l'impression de faire un combat de boxe. coopérer.coop et pour être complet, copea, donc coopea.fr.
Tout à fait.
Merci messieurs.
Merci.
Merci Philippe.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Depuis le 7 octobre, l'association L'Archipel des Sans-Voix met en ligne un journal peu ordinaire pour des personnes ordinaires ou presque, si je devais résumer l'objectif de cette invention. D'abord un mot sur cette association qui a vu le jour en 2015 dans le but de faire entendre les voix des personnes que l'on entend rarement, sinon jamais dans les débats publics. On les qualifie d'inaudibles ou d'invisibles. J'aime pas trop le terme d'invisibles parce que ça veut dire il faudrait les rendre visibles. Je préfère les rendre audibles et c'est ce qu'on fait avec les carnets. Mais ils et elles sont surtout des personnes touchées par la précarité ou la pauvreté. Perte d'emploi, marginalisation, voire exclusion, perte de logement, parfois de la dignité, autant de fractures que l'on peine à entendre ou du moins à écouter. Pourtant, ces personnes peuvent avancer des solutions du fait de leur expérience de vie accidentée. C'est dans cet esprit que l'Archipel des Sans-Voix a décidé de créer un journal interactif qui permet de communiquer, de mettre en lien. Cet outil est gratuit, accessible à tous et à toutes. Il permet à chacun de s'exprimer librement sous forme de témoignages, de coups de gueule, de récits de vie, de tribunes ouvertes. Il propose également un forum interactif. Il permet d'obtenir des informations utiles, les bons plans, les échanges de services ou de conseils, de partager des projets, de faire valoir ses compétences ou ses talents. Bref, c'est complet. Et ce média est un porte-voix de 100 voix, selon la formule des créateurs de cette source de liens. Et il a pour critère de participation unique les valeurs de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. d'égalité, auquel est ajoutée celle de laïcité. Le journal ouvre ses espaces aux personnes qui agissent dans les associations, évidemment aussi contre la précarité, l'exclusion. Tous les témoignages, individuels ou collectifs, sont donc les bienvenus. Si le siège de l'association est dans le 14e arrondissement de Paris, les 100 voix se font entendre depuis toutes les régions. Le site, c'est Archipel, trait d'union, des traits d'union 100, trait d'union voix. Il y a des traits d'union partout. J'aime bien les traits d'union.fr. Vous allez retrouver cette adresse à nos pages d'émission. Avant de se quitter demain, nous serons dans les Hautes-Pyrénées. Et puis la semaine prochaine, nous allons traverser l'Essonne, la Marne, la Seine-et-Marne, le Finistère. Et pour début février, les Côtes-d'Armor. Continuez à nous écrire depuis ces départements. Le zigzag de cette semaine nous arrête cette fois avec le jeu des 1 000 euros en Haute-Saône.